cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 26 avril 2001 à Saint-Jodard.
Le problème de l'un et du multiple est sûrement un de ces problèmes fondamentaux au point de vue philosophique. Vous voyez, il y a l'être et le devenir, l'un et l'être. C'est très curieux. Il y a quelques problèmes comme ça qui surgissent tout le temps et qui caractérisent deux mentalités. Je vous l'ai déjà dit, par exemple, par rapport à la théologie naturelle. Découvrir l'existence de Dieu, premièrement comme l'infini. Ça a été comme un grand mouvement, c'est une grande orientation qui met le point de vue de la négation en premier. L'infini, c'est la négation du fini. Et Thomas d'Aquin qui met en théologie la simplicité. Ça a l'air de rien, hein, point de départ, Dieu est infini. Mais c'est évident que Dieu est infini. Mais le théologien, si c'est une théologie de sagesse, il ordonne. Et c'est capital comme conception, comme contemplation de saisir Dieu comme l'être. L'intelligence subsistante, Dieu se contemple et s'aime. C'est là tout le point de vue de la contemplation, dans la simplicité absolue. Alors, ça, c'est à côté. Hein. C'est pour vous montrer que ce problème de l'un du multiple, c'est pas un problème second, c'est un problème essentiel. Évidemment, avant, il y a le problème de la substance et de l'acte, ce que nous avons vu, parce que ça, c'est saisir ce qui est premier. Alors, c'est principal. Ce qui est premier, c'est le principal. Et après avoir saisi, avoir analysé en quelque sorte l'être sous la lumière de l'être, en tant qu'être, sous la lumière de l'être, comme ça on voit mieux, et d'avoir saisi la substance et l'être en acte, on se pose la question de la conséquence de cela, du rayonnement de cela. Il faut bien le comprendre, le pose, le comment de la substance et le comment de l'acte. Et en dernier lieu, ce sera le comment de la substance et de l'acte pour l'homme. Je fais toute ma métaphysique pour comprendre ce qu'est l'homme relatif à Dieu. C'est toute ma métaphysique pour ça. Ah, ce serait très intéressant de voir justement à propos du problème de l'un et du multiple, les conséquences que peut avoir ce problème-là par rapport à cette connaissance que nous avons, métaphysiquement, de l'être, de l'homme, comme une créature spirituelle créée par Dieu. C'est bizarre, cette chose-là. Si Dieu a créé des substances séparées, il les a créées de toutes pièces. Hein, l'ange, il est toute pièce. Tandis que l'homme, il est toujours de deux pièces. Et constamment, c'est pour ça qu'il aime la dialectique. Hein. Il aime l'opposition entre le corps et l'âme, c'est ça, tout le temps. Et c'est curieux que Dieu a réalisé ça comme son chef-d'œuvre. C'est vraiment le chef-d'œuvre de Dieu, au point de vue création. Et le point de vue surnaturel le confirme. Hein. Il n'a pas fait une incarnation pour l'ange. Dieu n'a pas envoyé son fils pour l'ange. Ça, c'est un point de vue surnaturel. Hein. C'est pas un point de vue philosophique. Mais c'est intéressant de voir les harmonies entre la philosophie et la foi. Les harmonies. La théologie confirme en effet que c'est un chef-d'œuvre d'avoir créé l'homme de deux pièces dans l'un. On est un et on est de deux pièces. C'est vrai. Mon être qui fait mon unité. Je n'ai pas un être pour mon corps, un être pour mon âme, non. Et au moment de la mort, quand il y a ces deux pièces séparées, et mon corps n'existe plus comme corps humain, il est cadavre. Car il se dit, il est équivoquement corps de l'homme. C'est vrai. Il n'y a pas deux êtres. L'être vivant du corps... Et l'être de l'âme, non ? La dualité. Et là, on voit bien le problème de l'être de l'un et du multiple qui se pose tout de suite, parce que dès que l'âme n'est plus l'ol, le corps tombe dans la multiplicité. Il reste un certain moment, après il tombe dans la multiplicité. Et quand il reste un, on dit « Ah !» Il y a un miracle. Il y a une présence de Dieu particulière. Et pour la canonisation, ça joue beaucoup. Pour voir si Dieu a fait ce miracle ou pas fait. Vous voyez, c'est tous ces problèmes avec l'un multiple, hein, sous-jacent à tout ça. C'est un problème très foncier. Problème de l'un et du multiple par rapport à l'être. Quel est le rapport de l'être et de l'un ? Alors, un tout petit mot au point de vue historique. On ne s'appuie pas là-dessus, mais on aime d'interroger nos frères aînés. Nous avons des frères aînés qui s'entendent très curieusement, Platon et Aristote, ce sont de la bonne race, hein. Ce sont des frères aînés qui sont assez bien. Hein. C'est difficile de dépasser Platon, c'est difficile de dépasser Aristote. Même aujourd'hui, hein, quand vous mettez Hegel en face de Platon, j'aime mieux Platon. Et pourtant, c'est notre Platon moderne. C'est le colosse. Platon, c'est un colosse. On l'aime, Platon. Et quand on a le temps, lire tous les dialogues de Platon successivement, c'est merveilleux. Toutes ces petites maisons qu'il a construites, chaque dialogue est une maison. Et chaque dialogue nous représente quelque chose de particulier. Et on voit que Platon, c'est le philosophe de l'âme. Platon a eu une colère métaphysique, hein, une colère contre les sophistes. Et l'ami de Socrate, ça c'est sûr. Et il veut être l'ami de Socrate. Et le disciple de Socrate, et c'est Socrate qui l'a éveillé. Platon est très racé, il est de sang impérial, sang royal, il a en lui cette nostalgie d'être philosophe roi. Vous savez, quand un philosophe commence à faire de la politique, c'est dangereux. Il faut qu'il soit roi. Parmi nos hommes politiques, il n'y a pas beaucoup de philosophes, hein, aujourd'hui. Ah, ça, c'est la sainte démocratie. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de philosophes rois. Je ne sais pas à quel niveau ils sont au point de vue philosophique. S'ils passaient un examen philosophique avant, ce serait assez intéressant. On mettrait dans les propagandes électorales la note en face de la philosophie. C'est pas ça qu'on regarde. Platon, il est le philosophe roi. Et si on veut vraiment comprendre Platon, on doit regarder sa nostalgie. Sa nostalgie qui est fameuse. Alors, il l'a corrigée. Il y a un moment dans Platon qui est très curieux, où Platon fait la critique de lui-même. Est-ce à cause d'Aristote ? Les historiens n'aiment pas ça, mais je crois... C'est impossible qu'un homme comme Platon, qui a eu Aristote pendant 20 ans comme disciple, n'ait pas tenu compte de ce que Aristote pouvait lui dire. C'est sûr qu'il y a eu... On voit toujours de l'influence de Platon sur Aristote. Moi, j'aimerais... C'était quelque chose que je voulais faire et je ne l'ai pas fait. De l'influence d'Aristote sur Platon. Et c'est très net. Hein. Parce que si on est attentif à Platon, on voit que l'expérience, la sensation, au début, c'est rien. Et au terme... Ah, oui. Et Aristote, c'est l'homme de l'expérience. C'est l'homme qui exalte l'expérience, qui montre que nous sommes des êtres d'expérience. À cause de nos sens, nous n'avançons et ne pouvons avancer que si nous sommes très attentifs à nos expériences. Nous ne pouvons pas avancer philosophiquement sans cette très grande attention. Et nous ne pouvons pas avancer moralement, du point de vue de la prudence, sans être très attentifs à toutes les expériences, les échecs. Les échecs, c'est quelque chose de positif. Oui, c'est très intéressant de suivre les débats dans une assemblée comme... Le chapitre général, de suivre ces débats comme étant un petit peu extérieur. J'ai cet immense avantage maintenant d'être un peu à l'extérieur. Je ne suis plus immanent. Oh, tu as une ressemblance avec Dieu. Hein. Alors, on suit ça de l'extérieur, on n'est plus immanent dedans. Et on essaie. Parce qu'il faut le faire, de voir ça dans une lumière de sagesse. C'est très intéressant, personne ne m'empêche de ça. Hein. Puisqu'on est invité, il faut quand même assister quand on est invité. Il faut avoir de l'appétit. Un invité qui cabale l'estomac et qui refuse tout, c'est pas très agréable, n'est-ce pas ? On dit, qu'est-ce qu'il a ? Il trouve que c'est mauvais ? Non, non, il mange tout. Et largement, parce qu'il regarde tout du côté de la sagesse de Dieu. Il faut s'habituer à ça, du reste. Comme ça, on ne s'ennuie jamais. Dieu ne s'ennuie pas. Alors, quand vous avez le regard de Dieu, on verra ça demain, ou ce soir, s'il y a un cours, le jugement de sagesse. Alors, historiquement, il y a cette chose extrêmement curieuse, intéressante. l'être n'a pas encore été mis en pleine lumière. Il y a un Parménide qui a été très sensible à la séparation de l'être et du devenir. Il y a deux mondes séparés, complètement séparés, pas seulement distincts, mais séparés. Le devenir, c'est le monde de la corruptibilité. Le désir, le monde sensible, c'est le monde de la corruptibilité. On ne peut avoir aucune stabilité. Il change tout le temps. Et puis, il y a le domaine de l'être, séparé, du divin, qui est éternel. Alors, il le prend du côté de la vérité. C'est intéressant, du reste, du côté de la vérité. Il y a une vérité absolue, immuable. Et puis, la vérité des hommes à deux têtes. C'est très joli comme expression. Hein. Les hommes qui ne vivent que de l'opinion de leurs voisins. Ils sont toujours à tâter le pouls du voisin. Et le voisin et la voisine, toujours. Puisque dans l'humanité, il y a le voisin et la voisine. Alors il y a la mentalité que les voisins, c'est jamais d'accord. Voisin, la voisine. Les hommes à deux têtes, c'est comme ça qu'ils les regardent. Alors, ils sont toujours, tiens, peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'était pas encore la philosophie de l'être et du devenir. Donc Platon demeure un peu dans cette perspective-là. Parménide est quand même le philosophe qui a une noblesse extraordinaire. Il faut lire de temps en temps. C'est une lecture philosophique qui est excellente. Ce que nous connaissons de Parménide, les fragments de Parménide, c'est beau. C'est une lecture philosophique édifiante. Et Platon se situe dans cette ligne-là, cette noblesse de Parménide. Donc Héraclite, c'est l'homme de l'expérience, beaucoup plus terre-à-terre. Donc ça existe déjà avant Platon et Aristote. Il y a le point de vue de Parménide et d'Héraclite. C'est curieux. Oui, corps et âme. Alors, chez Platon, comme Platon a un amour de l'âme humaine, Platon veut montrer que ce qu'on sait par les légendes, par le langage métaphorique, des traditions religieuses sur l'âme, c'est vrai philosophiquement. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un langage symbolique. C'est vrai, l'âme existe et par elle le corps existe. Et l'âme est créée d'abord. Alors pour expliquer cette espèce de cohabitation de l'âme et du corps, c'est pas commode, hein, cette cohabitation curieuse, il montre que c'est la faute. Je suis uni à mon corps à cause de la faute. C'est le péché, on ne dit pas le péché à la faute, c'est la faute qui explique ce lien bizarre de l'âme dans le corps. Le corps est la prison. Le corps est le tombeau. Il le dit, hein, le tombeau de l'âme. Et c'est pour ça que mon corps, c'est difficile à l'aimer. Et c'est l'âme. Je crois que c'est très important de voir dans Platon cette espèce de désir de montrer la grandeur de l'âme humaine, la noblesse de l'âme humaine. Elle est unie au corps, ce n'est pas naturel, c'est une punition. On est dans un état de punition. Alors, si on est dans un état de punition, mon âme ne doit pas avoir trop de dépendance à l'égard du corps. Et puis petit à petit, Platon atténue ce point de vue. Il atténue. C'est un très gros problème chez Platon, le lien de l'âme et du corps. Chez Platon, l'âme a, par elle-même, intuitivement, la saisie des formes en soi. La contemplation des formes en soi. L'âme est contemplative par elle-même. La chute dans le corps fait que cette contemplation doit être de nouveau acquise. On doit la reprendre. Il faut la retrouver. Mais elle est comme naturelle. Mon âme est contemplative. Par mon corps, elle n'est plus contemplative. Alors, quand Platon essaie de voir ce qui est au sommet de cette contemplation, c'est au sommet de cette contemplation, c'est l'un. C'est la bonté et l'un. Ce n'est pas l'être. Vous voyez, c'est toujours très important, quand on étudie un philosophe, de regarder jusqu'où il va. C'est-à-dire de regarder le sommet. Vous voyez, il y a une vision de sagesse pour analyser l'histoire. Il y a une vision scientifique pour analyser l'histoire. Très souvent, au point de vue philosophique, on analyse scientifiquement les philosophes, ce qui est, je crois, une grave erreur. Une erreur, vous voyez, c'est une erreur si on fait ça, la seule vision, qu'il y ait une première vision historique de cette manière-là, c'est très bien. Mais la grande vision qu'il faudrait voir, c'est que quand on étudie l'histoire de la pensée, c'est justement qu'il faut se situer dans ce qu'est la pensée. Et c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que la pensée pour Platon? Alors tout de suite, je vois que c'est la théoria, la contemplation. Ce qui est grand dans Platon, c'est qu'il a vu, nous étions faits pour la contemplation. Et tout est ordonné à ça. Sa faiblesse, c'est qu'il n'a pas vu que l'union de l'âme et du corps est une union naturelle. L'homme ne peut pas se définir uniquement par l'âme. Platon définit l'homme par l'âme contemplative. Et l'homme est uni au corps parce qu'il est dans un état de péché. À cause du péché, le péché de l'humanité. Oui. Et donc, tout l'effort du philosophe, c'est de sortir du corps. et de redevenir une âme contemplative. Vous voyez, c'est très beau, hein, ça a de la grandeur. C'est voir que l'âme est contemplative, c'est ce que Aristote a gardé de Platon. Le lien entre Aristote et Platon, c'est la théoria, c'est la contemplation. Mais comment on arrive à la contemplation ? La différence entre Platon et Aristote est capitale. Pour Aristote, on arrive à la contemplation par un cheminement humain. Progressivement, l'âme découvre qu'elle est faite pour Dieu. Pour Platon, progressivement, l'âme retrouve sa contemplation primitive qu'elle a eue. Nous sommes des contemplatifs par nature, notre âme humaine, et nous sommes liés au corps à cause de la faute. Et donc, tout l'effort philosophique sera une purification de ce corps, de ce lien avec le corps. Alors, vous voyez que tout de suite, la sensation qui est un lien avec le corps, qu'est-ce qu'elle sera ? Le début de Platon, c'est très net, la sensation. Elle doit être écartée. Puis, progressivement, quand Platon voit l'importance du point de vue politique, alors il est un peu plus attentif. Parce que c'est évident. Si je suis fait pour la contemplation, alors la politique, ça sert à quoi ? Et pour Platon, l'homme politique, c'est le contemplatif. Et l'homme politique, c'est le contemplatif. Et il doit gouverner des pauvres gens qui ne sont pas des contemplatifs, alors il doit mentir. Il a le droit de mentir. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre autre chose. Oui, il reste lié. Il reste en devenir. Le contemplatif sort du devenir. Alors, c'est très beau, vous voyez, comme intuition. Et chacun des dialogues montre un aspect particulier de l'âme. Je crois que Platon, c'est justement sa grande richesse, c'est que la diversité de chacun de ses dialogues montre un aspect de l'âme. Et c'est l'intérêt qu'il y a. Mais quand on touche le sommet, justement, cette contemplation, qui est la contemplation du bien en soi, de l'un en soi. Et pour unir l'un et le bien, il y a la dynamis, la puissance. Au fond, c'est la puissance en soi. C'est ça le sommet. La puissance, c'est l'un et le bien. L'être, ah, l'être. Vous comprenez que l'être, c'est très ennuyeux l'être. Parce que c'est l'expérience que j'ai d'habiter un monde corruptible qui existe. Alors le monde corruptible, il est dans le multiple. La corruption, elle implique le multiple. Implique ce mouvement de corruption où chacun tire de son côté et se sépare. L'unité ne peut se faire que par la puissance. L'unité ne peut se faire, et l'unité est plus que l'être. L'être reste au niveau du devenir. Vous voyez, la solution de Parménide pour le primat de l'être, la solution de Platon pour l'immortalité, c'est l'immortalité de l'âme. L'âme est contemplative, donc éternelle. C'est la bonté. Et c'est par là qu'elle est une, qu'elle retrouve son unité. Quand elle est unie au corps, elle est complexe. Je suis dans la multiplicité. Donc l'être reste toujours lié au devenir. Il y a une conception de l'être qui n'est pas assez pure et qui reste liée à la corruption. Et ceci, je crois, peut se comprendre parce que pour Platon, l'absolu, c'est la vie spirituelle. Ce n'est pas l'être, c'est la vie. Or, la qualité première de la vie spirituelle, c'est d'avoir en elle-même sa propre unité et de découvrir en elle-même sa propre unité. Donc, séparée du monde du devenir, séparée du monde de la corruption, au-dessus de l'être, il y a l'un. Et je crois que ce dépassement de l'être se fait parce que son absolu, c'est la vie spirituelle. C'est la contemplation. Alors, cet absolu étant le point de vue de la vie, et non pas l'être, en réalité, Platon reste dans cette vision de la vie spirituelle. Et l'unité de cette vie spirituelle consiste à ce que il puisse contempler en lui-même le bien en soi, qui dépasse tout. La vie spirituelle à l'état pur ne peut que se contempler. Dès qu'elle est liée à la sensation, elle n'est plus pure. Elle retombe dans le devenir. Aristote va très vite, grâce à l'expérience, découvrir la différence entre être et vie. Et montrer que ce qu'il y a de plus fondamental, c'est la saisie de l'être. Et par le fait même, l'un n'est plus au-dessus de l'être. C'est l'être qui est regardé en lui-même, dans toute sa pureté, qui est substance et acte. Et on a comme conséquence immédiate l'unité. L'être est un quand il est substance. L'être est un quand il est acte. Et la multiplicité provient de la potentialité. Vous voyez, il y a un renversement qui est capital comme vision de mettre au-delà de la vie la connaissance de l'être. Et cette vision première de l'être par rapport à la vie est une conséquence directe que l'intelligence est liée aux sensations, qu'elle les dépasse et qu'elle mendie son bien par l'expérience, par les sensations. C'est évident que les sensations, c'est la vitalité. Mais cette vie de la connaissance est ordonnée à un objet qui est premier. C'est une réalité extérieure à moi, que ce soit l'ami, que ce soit le petit caillou. C'est une réalité qui est extérieure à moi, qui commande ma connaissance, qui la détermine, l'être. Et à ce moment-là, l'un est propriété de l'être. Vous voyez, je résume rapidement cette vision de Platon et d'Aristote, mais c'est capital de comprendre comment Platon, mettant le primat de la vie, veut mettre le bien, la puissance et l'un au-delà de l'être. Et comment Aristote, en face de Platon, c'est le petit David en face de Goliath, qui cherche où il y a confusion. Et la confusion, il la voit dans la relation entre un et être. Entre être et un.